Oublions jamais de placer les choses en perspective.
Ça aurait dû être une grande célébration.
C'est quand même gros ce qu'on évoque là.
Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé.
Un professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté.
Bonjour Luc.
Oui, bonjour Alexandre.
Alors, on surveillait avec attention ce qui se passait au Kansas dans ce référendum ultimement sur l'avortement et on a eu droit vraiment à une victoire décisive des pro-choix du côté du Kansas. Et la question qu'on se pose quand on regarde un petit peu plus loin, c'est est-ce que toute la question de l'avortement, ça pourrait être une question de l'urne lors des élections de mi-mandat?
Voilà, écoute, les résultats sont intéressants à plus d'un titre. On en avait parlé tous les deux quand on s'est parlé plus tôt cette semaine. C'est le premier test, donc symboliquement, puis dans les faits, c'est très important. C'est le premier test depuis qu'on a renversé Roe versus Wade, qui décriminalisait l'avortement. C'est aussi de maintenir un accès à l'avortement dans cette région-là des États-Unis, où de plus en plus d'États soit avaient déjà des lois ou vont avoir des lois de plus en plus restrictives. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est la population qui se prononçait. De là, le lien avec des élections de mi-mandat qui approchent. Est-ce que cette question-là est importante pour les électeurs américains, pour certains électeurs d'États où les législatures sont républicaines? Le message au Kansas, en tout cas, il est clair. Alors, on avait même, du côté, ce sont des républicains qui contrôlent la législature au Kansas, on avait même fait exprès de planter ce référendum en plein été pendant les primaires. On aurait pu attendre plus tard. On l'avait planté là en disant, il y a à peu près que les conservateurs qui se mobilisent l'été quand le vote et la participation au vote est à la baisse. Et ça a quand même fait sortir des gens. Et la marge, c'est même pas serré. Hier, on annonçait le tout près de 65% pour maintenir la question de l'accès à l'avortement, alors qu'il y avait 35% d'opposants ou en faveur, finalement, d'éliminer le recours à l'avortement. Donc, c'est important pour les femmes, au premier chef. Puis en même temps, c'est certain que les démocrates regardaient ça et que ça leur donne espoir qu'au mois de novembre, bien, on n'est pas oublié et qu'on veuille peut-être même sanctionner des candidats qui veulent limiter ou retirer carrément ce droit à l'avortement. Donc, c'est un premier test. On verra, il y en aura d'autres. Mais à la fois pour les femmes qui souhaitent accéder à un avortement et pour le Parti démocrate qui récupère cette thématique-là, c'est encourageant ce à quoi on a assisté hier.
Parce que dans le cas du Kansas, Luc, l'avortement qui reste autorisé jusqu'à 22 semaines de grossesse, c'était, oui, un gros test là-dessus, mais va falloir surveiller ce qui va se passer ailleurs. Là. Je pense au Kentucky, voilà. En Californie, et ça, ce sera en même temps que les élections de mi-mandat.
Voilà, de là, puis je trouvais que ta relance est intéressante, de là où la question sous-jacente, est-ce qu'on peut faire de ce seul sujet-là une question de l'urne? Aux élections de mi-mandat ou aux élections générales, c'est très souvent l'économie qui l'emporte sur le reste. Soit ça, ou encore cette fameuse guerre culturelle qu'on évoque de plus en plus souvent, malheureusement, aux États-Unis, des oppositions, puis une polarisation qui est très, très, très grande. Est-ce que sur un sujet comme l'avortement, c'est suffisamment fort pour qu'on mette de côté les autres enjeux pour dire on veut maintenir ça? Et hier, le message, il y a assurément hier des gens qui sont des républicains qui se sont retrouvés dans le 65% de gens qui ont refusé de laisser tomber le droit à l'avortement. Alors, c'est vraiment quelque chose qui va être intéressant. Puis, ben écoute, j'ajoute ça aux nombreux indicateurs ou aux nombreuses questions à surveiller d'ici au mois de novembre.
Oui, c'est clair. On va voir plusieurs choses sur notre radar. En tout cas,
oui.
Dis-moi, ça a été une bonne soirée pour les candidats appuyés par Trump hier?
Oui, écoute, on parlait ou on mentionnait, là, puis c'est dans la foulée des travaux, des révélations de la commission qui enquête sur le 6 janvier 2021, on a dit l'étoile de Donald Trump, elle a pâli. Il a été littéralement largué par des journaux conservateurs. On avait évoqué ça, le New York Post, entre autres, le Wall Street Journal. Il y a certains républicains qui avaient dit non, c'est assez, nous, on débarque du train. Ou encore qui refusaient d'appuyer Donald Trump alors qu'auparavant, il l'avait fait. On a vu aussi la cote de popularité de Donald Trump baisser si on regarde l'ensemble de la population américaine. Il conservait des appuis très forts à certains endroits, puis auprès de sa base, sa fameuse base électorale. Mais donc, les nouvelles n'étaient pas très bonnes depuis 2 ou 3 semaines. Hier, il est venu, les résultats, finalement, le confirment encore dans son statut de joueur particulièrement important avec lequel il faudra compter. Ce que j'ai noté, c'est non seulement 5 de ces candidats hier l'ont emporté, mais à certains endroits, ce sont des candidats, puis là, bien sûr, c'est un résultat démocratique. Écoute, on vivra avec. Mais en même temps, ce que défendent ces candidats-là et que la population les appuie, moi, j'y trouve quelque chose d'inquiétant pour les institutions démocratiques. Je remarquais hier, par exemple, qu'il n'est pas encore, bien sûr, élu à ce poste-là, mais il sera le candidat républicain pour ce poste-là. Mark Finchem, en Arizona, est le candidat républicain depuis hier pour le poste de secrétaire d'État. Secrétaire d'État en Arizona, c'est la personne qui vient valider les résultats d'une élection, c'est-à-dire que l'élection est placée sous sa responsabilité. M. Finchem, il fait partie de ceux qui croient au grand mensonge, okay, qu'on a volé l'élection, et lui prétend qu'il aurait refusé de certifier les résultats de l'élection 2020. Si vous pensez que la population américaine, ou la population de l'Arizona en particulier, accorde sa confiance, du moins les républicains, à quelqu'un qui dit qu'elle n'est pas valide l'élection de 2020 et qu'il pourrait très bien chercher à ne pas certifier des résultats similaires en 2024, il y a quelque chose de troublant. Donc, je répète, on vit en démocratie. Il y a une grogne, il y a une colère, il y a un rejet des institutions traditionnelles ou de la façon de les gérer. Dans ce cas-ci, est-ce que le remède est pire que le mal qu'on dénonce? En fait, c'est inquiétant si on ne veut plus jouer selon les règles du jeu et qu'on occupe éventuellement une fonction aussi stratégique et importante que celle que Finchem vit.
Ouais. On a suivi, Luc, ensemble, les audiences sur l'assaut du Capitole. Puis, il y avait toute la question des textos perdus, là, qu'on retrouvait pas des services secrets américains, notamment pour les 5 et 6 janvier. Ben, il y a un nouveau chapitre, c'est les textos effacés des dirigeants du Pentagone.
Écoute, ça devient vraiment de plus en plus troublant. Est-ce que quelqu'un, en 2022, croit que les experts en technologie ou les équipes techniques de services aussi importants que ça ne sont pas capables de retrouver des textos ou des messages perdus? Écoute, je travaille dans une institution à l'enseignement qui n'a pas les capacités du gouvernement américain ou des différents départements américains. Si je perds un courriel, on va me le retrouver. Je suis certain que je peux, avec un minimum d'effort, retrouver des textos que j'aurais fait disparaître. Comment se fait-il que deux institutions aussi importantes que les services secrets et le Pentagone ne soit pas en mesure de répondre à une commande qui vient pas de n'importe qui, mais qui vient des élus américains ou des responsables de ce qu'on appelle les watchdogs, hein, ceux qui surveillent finalement le fonctionnement de la machine? Comment se fait-il que deux institutions aussi puissantes que ça, qui normalement sont au sommet de la maîtrise de différentes technologies, comment se fait-il qu'on soit incapable de fournir les renseignements demandés? Au Pentagone, c'est aussi louche que ce qu'on a vu, ou aussi troublant que ce qu'on a vu, que ce qu'on nous a dit sur les services secrets. Ce sont les textos de dirigeants républicains qu'on a perdus ou effacés. Donc, ça veut dire que tout ce qui est lié à Trump autour des 5 et 6 janvier, les services de renseignement ne sont pas capables de nous fournir l'information pertinente, pas plus que le Pentagone. Est-ce que quelqu'un croit encore, sans faire de nous des complotistes, ça me semble assez évident, est-ce que quelqu'un croit encore que c'est un hasard que ce qui disparaît soit lié d'aussi près à Donald Trump dans des circonstances aussi troublantes? C'est un drôle de hasard qu'il ne manque dans les deux cas que le 5 ou encore le 6 janvier au moment où il se déroulait l'assaut sur le Capitole.
Ouais.
Donc, c'est un des dossiers que je surveille. On n'en parle pas toujours dans les grands titres, pas la première page, mais c'est une des choses que je surveille constamment. Est-ce qu'on va obliger ces gens-là à rendre des comptes? Et si on le fait, est-ce qu'on va bien voir une implication très, très politique dans les manœuvres sont, on ne peut plus, louche et inquiétant.
Exact. Et puis, Luc, je prends quelques secondes de ton temps parce que ça vient de sortir là, sur le fil de presse relativement à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan.
Oui.
Là, on apprend que ce sont 27 avions militaires chinois qui sont entrés dans la zone de défense aérienne taïwanaise. Alors, tu sais, quand on se demandait, c'était très, très, très tendu, puis on en a la preuve, là.
Oui, puis écoute, moi, tu me relances là-dessus. Si jamais ça intéresse nos auditeurs, j'ai un petit billet sur le carnet américain dans le journal au sujet du risque encouru par la visite de Mme Pelosi. Moi, je pense que c'était non seulement très risqué, mais qu'elle nuit dans différents dossiers aux manœuvres de son président, mais d'un président du même parti que le sien. Pour le moment, Taïwan est quelque part, se situe à l'intérieur de ce qu'on peut carrément qualifier de blocus. Alors, est-ce qu'on ira plus loin que ça? Moi, je pense qu'on va garder une réponse, somme toute, assez mesurée. Mais le gouvernement chinois ne pouvait pas rester les bras croisés, ne pas offrir de contrepartie à ce qui était carrément un pied de nez de la part de Nancy Pelosi.
Oui. Alors, on ira te lire dans le carnet américain, Luc. Merci beaucoup. À vendredi.
Une bonne journée, Alexandre.
Bye.